VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Égypte, les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour le troisième et dernier jour d'un scrutin présidentiel où le taux de participation est l'unique enjeu. Faute de compétition sérieuse face au président sortant Abdel Fattah al-Sissi qui brigue un nouveau mandat. Le chef de l'État, élu en 2014, a pour unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, peu connu du grand public et partisan affiché du régime actuel. Selon l'agence Reuters, un certain nombre d'électeurs disent avoir reçu de l'argent, des vivres et autres cadeaux pour voter. Le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril. Éthiopie, la coalition au pouvoir dans le pays a choisi comme nouveau leader et donc prochain premier ministre, Abiy Ahmed. Décision considérée comme un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo, dont il est issu et qui a été pour beaucoup dans la démission de son prédécesseur à la tête du gouvernement. Monsieur Abiy devrait donc succéder au premier ministre Haile Mariam Desalegn qui a rendu son tablier en février. Il deviendra ainsi le premier chef du gouvernement appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays, depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF, l'équipe dirigeante actuelle, en 1991. En Côte d'Ivoire, le PDCI, plus vieux parti du pays, est membre de la coalition au pouvoir avec le RDR, qui a raflé la majorité des sièges au sénatorial du week-end dernier, réclame une nouvelle commission électorale avant l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI rejoint ainsi l'opposition qui a lancé un appel similaire. Gaby Dorsil.
Jamais le PDCI n'avait adopté pareille position, en tout cas pas publiquement. Pour le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié, il est impératif d'avoir une commission électorale capable de rassurer quant à la crédibilité du scrutin. Le porte-parole adjoint du PDCI, Jean-Louis Billon, soutient que l'actuelle entité électorale ne répond plus à la réalité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Sans une commission crédible, on risque de s'enfoncer dans une nouvelle situation de crise, prévient l'ancien ministre du Commerce. La position du PDCI, un allié du président Alassane Ouattara, n'est pas différente de celle affichée par l'opposition, qui a même brandi l'arme du boycott au cas où une commission n'est pas établie sur une base consensuelle avant les prochaines échéances électorales, les municipales et les régionales, avant la fin de cette année. Aucun signe jusqu'à présent que le gouvernement ivoirien pourrait se laisser fléchir. Le premier ministre Amadougon Koulibaly a rejeté l'idée de renvoyer l'actuelle commission électorale, rappelant qu'elle est le résultat d'un accord entre les principaux acteurs politiques.
La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux des principaux producteurs mondiaux de cacao, ont signé ce mercredi à Abidjan un accord visant à améliorer le prix d'achat de la fève aux producteurs et faciliter la lutte contre la contrebande. Selon le document, Abidjan et Accra s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Objectif, essayer de rapprocher les prix dans les deux pays, a souligné Yves Conné, président du conseil du Café Cacao, l'organe de régulation de la filière en Côte d'Ivoire. La différence de prix payée aux producteurs des deux côtés de la frontière des deux voisins encourage la contrebande, source de tensions entre les deux pays. La lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram de la région du lac Tchad maintenant. Un soldat camerounais a été tué et quatre autres blessés mardi dans une embuscade tendue dans le nord du pays par des éléments de Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source militaire tchadienne. Selon cette source, l'armée tchadienne a évacué les blessés par hélicoptère à N'Djamena. Et les assaillants ont emporté le corps du soldat camerounais tué. L'attaque a eu lieu entre Fotokol et Kousseri dans la région de l'extrême nord du Cameroun, voisine du Tchad, où les incursions du groupe djihadiste sont fréquentes. Des unités militaires du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger, regroupées au sein de la FMM, la force multinationale mixte, combattent Boko Haram conjointement dans la région du lac Tchad depuis 2015. À noter que vendredi dernier, au moins 5 civils nigériens ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Et le même jour, un soldat tchadien a perdu la vie dans un accrochage avec des combattants du groupe djihadiste dans la région du lac Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, la justice congolaise a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre dans le pays. Le chef des parquets congolais a aussi souligné son intention de faire un procès à Moïse Katumbi dans une affaire de recrutement de mercenaires, notamment un ancien militaire américain, pour déstabiliser les autorités de la RDC. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre, M. Katumbi a lancé sa plateforme électorale le 12 mars à partir de l'Afrique du Sud pour l'élection qui permettra d'organiser le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, à qui la constitution congolaise interdit de briguer un nouveau mandat. Et RDC toujours, retour sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prolongeant et renforçant le mandat de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays, en vue des élections du 23 décembre 2018 et d'une passation pacifique du pouvoir à la tête de l'État. Ce document adopté mardi souligne la nécessité de protéger les civils pour organiser le départ en douceur du pouvoir du président Joseph Kabila. Plus de détails avec Eddy Sango.
Le texte adopté à l'unanimité, initié par la France, prolonge les mandats de la MONUSCO jusqu'en mars 2019. Il mandate les casques bleus à accompagner l'inscription des électeurs, les scrutins et la transition au sommet du pouvoir attendu le 12 janvier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été appelé à préparer des plans incluant toutes les options, y compris l'envoi des renforts venus d'autres missions de l'ONU. Monsieur Guterres a 3 mois pour faire le point sur ses plans de contingence devant les conseils de sécurité. L'ambassadeur congolais auprès de l'ONU a pour sa part appelé au départ de la MONUSCO. Pour lui, la mission des casques bleus devrait être avant tout de lutter contre les groupes armés pour protéger les civils dans la partie est du pays. Installée depuis près de 20 ans, la MONUSCO est la plus importante mission onusienne dans le monde avec le plus gros budget et personnel, soit plus de 16 000 militaires et des milliers de civils.
Guinée équatoriale, les militants d'un parti d'opposition dissous en février dans le pays affirment avoir été torturés. Pratique confirmée par les défenseurs des droits de l'homme, mais fermement démentie par le pouvoir à Malabo. C'est à Guantanamo, sur au nom du commissariat central de Malabo, que plusieurs des 38 militants du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation, arrêtés par les autorités, disent avoir subi de mauvais traitements du 28 décembre au 3 janvier, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Les faits ont eu lieu juste après que le régime du président eut annoncé avoir déjoué le 24 décembre une tentative de coup d'État dont les commanditaires étaient des Équato-Guinéens et les exécutants des étrangers, parmi lesquels des Français, selon Malabo. Un certain nombre de militants de Citoyens pour l'innovation avaient été arrêtés après une tentative de rassemblement début novembre. Actualité hors d'Afrique maintenant, suite de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe au Royaume-Uni. L'OTAN a annoncé de nouvelles représailles contre la Russie, mais Moscou déclare préparer une riposte. Clairement Gibault.
L'OTAN a annoncé hier qu'elle avait décidé de retirer leurs accréditations à 7 membres de la mission russe et de rejeter 3 demandes d'accréditation supplémentaires. Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, c'est un message clair adressé à la Russie. Les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences, a-t-il déclaré. Ces mesures s'ajoutent aux 121 expulsions déjà décrétées depuis lundi par 26 pays, dont les États-Unis et 18 membres de l'Union européenne, dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental, sans précédent même du temps de la guerre froide. Moscou, qui nie être à l'origine de l'empoisonnement, a promis de contre-attaquer. « Nous allons riposter, n'en doutez pas », a prévenu mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
La Russie reste ouverte à une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, évoquée par les deux chefs d'État lors d'une conversation téléphonique la semaine dernière. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cela dépend de la partie américaine, mais la partie russe reste ouverte à un sommet Russie-États-Unis, a souligné M. Peskov aux journalistes alors que Donald Trump a ordonné depuis l'expulsion de 60 diplomates russes des États-Unis en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal en Grande-Bretagne. Et pour terminer, dossier Corée du Nord, le leader nord-coréen Kim Jong-un a accueilli en grande pompe à Pékin pour sa première visite en Chine qui s'est déroulée de dimanche à mercredi et où il s'est prononcé pour la dénucléarisation de toute la Corée avant son sommet attendu avec le président Donald Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.